faut pas se cacher derrière son petit doigt ou être hypocrite. C'est une très bonne nouvelle.
Ségolène Royal ne sera bientôt plus ambassadrice des pôles. Elle a reçu une lettre lui demandant d'arrêter de critiquer le gouvernement, mais elle ne compte pas se taire.
Ambiance de plus en plus tendue à l'université de Rennes 2, où les partiels sont encore une fois reportés. Certains étudiants dénoncent une minorité qui les empêche de travailler. Ce sera le coup de fil du journal de 6h.
400 nouveaux emplois en CDI chez Toyota à Honnain, près de Valenciennes. Il faut produire un nouveau modèle avec moteur hybride. Satisfaction des salariés.
Ce n'est qu'une joie pour les salariés. Ça va donner de la sérénité et surtout une pérennité à l'entreprise.
Lutter contre la désertification de nos campagnes, l'opération 1000 cafés va permettre de sauver des petits commerces comme à Tresson dans la Sarthe.
Dans nos communes, ce qui est difficile, c'est la solitude. Donc c'est vital que ce café voit le jour.
Et puis la sortie aujourd'hui d'un film déjà favori pour les prochains Oscars, 1917 de Sam Mendes. Aucun montage visible à l'écran, une vraie performance technique.
Europe 1, 6h01. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
Par ici la sortie, Ségolène Royal devrait prochainement perdre son poste d'ambassadrice des pôles. C'est elle-même qui a publié sur Facebook la lettre d'avertissement envoyée par le Quai d'Orsay il y a une semaine.
Il lui est notamment reproché les critiques à l'encontre du gouvernement, que ce soit sur les retraites, le glyphosate ou les violences policières, sachant que le rôle d'ambassadrice implique en théorie, un devoir de réserve.
Oui, l'ancienne candidate à la présidentielle estime d'ores et déjà qu'elle est licenciée. Je n'ai pas l'intention de renoncer à ma liberté d'opinion, dit-elle. En tout cas, certains ne la regretteront pas, comme Miko Mered, il est professeur de géopolitique des pôles.
Depuis sa nomination, Ségolène Royal n'était jamais venue au Conseil de l'Arctique.
Il y a eu aussi beaucoup de réunions en France où, là encore, les participants internationaux exprimaient leur incrédulité devant le fait que l'ambassadeur des pôles français ne soit pas présent alors que eux avaient fait le déplacement en France. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt ou être hypocrite. Le fait que la situation de Madame Royal et de l'ambassade des pôles en général soit en voie de clarification, c'est une très bonne nouvelle. Puisque nous avons en France depuis 2016 une feuille de route nationale sur l'Arctique qui n'a finalement jamais été mise en œuvre.
Miko Mered, professeur de géopolitique des pôles au micro-Europe 1 d'Élise Dangean. Un prochain Conseil des ministres devrait examiner le décret qui met fin en fonction de Ségolène Royal, poste bénévole, mais sans doute pas dès ce matin.
Et justement, après le Conseil des ministres à l'Élysée, le gouvernement va se retrouver en séminaire pour définir les priorités de 2020.
Tenter de tourner la page du lourd dossier des retraites, définir la feuille de route des prochains mois, voilà donc l'ambition de cette réunion, Jean-Rémy Baudeau.
Le but, c'est d'arriver à parler d'autre chose que des retraites, espère un conseiller. Un proche du Premier ministre le confirme, il faut montrer qu'on ne travaille pas que sur cette réforme. Les sujets sur la table ces prochains mois sont d'ailleurs encore nombreux. Au séminaire aujourd'hui, tous les ministres auront sous les yeux le planning des prochains chantiers. Retraite évidemment, mais aussi communautarisme, écologie, hôpital. Il faut accorder nos violons sur les principales réformes en cours, confie un ministre. Un conseiller renchérit. Le but, c'est de recréer une dynamique positive avant les municipales. Car à partir du 24 février, l'exécutif n'aura plus le droit à la moindre annonce. C'est la période de réserve préélectorale. Ce séminaire est le dernier avant les élections.
Jean-Rémy Baudeau, et après ce séminaire, Emmanuel Macron recevra des centaines de représentants des médias pour présenter ses vœux à la presse.
Le chef de l'État sera sans doute questionné sur le conflit des retraites. Nous sommes au 42e jour de grève.
Et hier, des manifestations étaient organisées dans toute la France, mais elles n'ont pas beaucoup mobilisé. On en parle moins, mais dans certaines facs, le mouvement se durcit.
Comme à Rennes 2, où les partiels prévus à partir de lundi ont encore été reportés à cause du climat des plus tendus.
Oui, on vous avait raconté sur Europe 1 cette scène d'étudiants en plein examen dont les copies avaient été déchirées par d'autres étudiants en grève. La colère monte du côté de ceux qui veulent passer leurs examens, se sentent en quelque sorte pris en otage par une minorité. Ils ont monté le groupe Action Pacifiste des étudiants de Rennes 2 et viennent de lancer une pétition en ligne.
Bonjour Clémence.
Bonjour.
Vous avez 20 ans, hein. Vous êtes étudiante en deuxième année de psychologie. Merci d'être en direct sur Europe 1 ce matin. Vous faites partie de ce groupe. Qu'est-ce que vous demandez concrètement dans cette pétition ?
On demande tout simplement à passer nos examens. Le but de cette pétition, c'était avant tout de nous faire entendre, parce que ce qui est important de préciser aussi, c'est qu'on était en colère contre les actions qui ont été faites le 6 janvier, mais aussi contre la présidence de l'université qui n'a pas anticipé les actions qui étaient assez prévisibles, là où on a pu le voir dans d'autres facs qui ont anticipé et qui ont fait passer les examens par devoir maison, par exemple.
Et le dialogue est impossible avec les étudiants bloqueurs ?
Oui, de toute façon, c'est quelque chose qui a toujours été à partir du moment où ils ont des convictions fortes, c'est vrai que c'est compliqué de les dissuader de faire ce genre de choses.
Quand vous leur dites « on a envie de travailler, on a envie de passer nos examens », ils ne vous entendent pas ?
Non, parce qu'ils estiment que les choses pour lesquelles ils se battent ont plus de valeur que passer un simple examen qu'on pourra reporter plus tard.
Vous avez mentionné l'encadrement de l'université, il a été défaillant pour vous dans l'organisation de ces examens ?
Oui, je pense, oui.
Alors, c'est quoi la solution pour vous ?
Ce serait déjà d'anticiper plus, parce que avec les assemblées générales qui sont organisées, on peut quand même prévoir les blocages à venir ou les actions des étudiants qui manifestent. Donc déjà ça dans un premier temps, et puis peut-être essayer de trouver des solutions pour qu'on s'entende et qu'on se mette d'accord sur une manière de se mobiliser qui n'atteindrait pas nos examens directement.
Voilà, c'est un mouvement qu'on va suivre. Merci beaucoup Clémence, étudiante à la fac de Rennes 2. Merci d'avoir été l'invité du journal de 6h sur Europe 1.
La grève se poursuit dans les transports, avec tout de même une amélioration, hein, 80% des TGV et TER, presque autant de transiliens et la moitié des intercités.
À la RATP, toutes les lignes ouvertes avec parfois des coupures en milieu de journée. Le mouvement lancé par la CGT dans les ports français est massivement suivi, notamment à Marseille, où vient s'ajouter un conflit social qui touche la compagnie Corsica Linea, l'ancienne SNCM. Conséquence, 18 traversées annulées jusqu'à vendredi vers la Corse, mais aussi vers l'Algérie. Certains passagers qui devaient rejoindre Alger se retrouvent coincés avec leur voiture devant les grilles du port, comme Hamza Doudi.
Le port est bloqué, tout est fermé, voilà quoi. Ils ne nous laissent pas rentrer dans le parking. Il y a même des gens qui sont avec leurs gosses, avec leur famille. Je ne sais pas comment ils vont faire. Franchement, c'est pas humain. Là, regardez, dorme par terre. Il a mis son matelas, il est là, il est en train de dormir. On n'est pas des chiens, en fait. Avec le froid, on était à l'agence, et on avait le directeur. Il ne peut rien faire pour nous, pour l'instant. Le seul moyen qui va nous rembourser, mais non, ça ne nous arrange pas. Pas du tout. Là, on est dans un cas galère, sans manger, sans abri, le froid. Normalement, il y a plus de 500 voitures. Il y en a qui habitent à côté, il y en a qui sont partis, il y en a qui ont pris des garages. Et comme moi, j'ai personne ici, je viens de Paris, je ne vais pas retourner à Paris. Je ne sais pas quoi faire.
Un Algérien bloqué à Marseille, au micro Europe 1 de Stéphane Frangy.
Il est 6h08.
En cette période un peu maussade sur le plan économique, voilà une nouvelle qui fait du bien. Toyota va créer 400 emplois en CDI dans son usine d'Onin. C'est près de Valenciennes, dans le Nord.
Oui, le constructeur japonais va lancer un nouveau modèle, un SUV hybride qui sera assemblé sur les mêmes chaînes que celle de la Yaris. Jusqu'ici, modèle unique fabriqué sur le site. Les salariés s'en réjouissent, bien évidemment.
Deux véhicules, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que s'il y a un véhicule qui marche moins bien, forcément l'autre va le rattraper.
Le deuxième modèle, ce n'est qu'une joie pour les salariés. Ça va donner de la sérénité et surtout une pérennité à l'entreprise. Les contrats intérimaires, les contrats CDD qui vont être transformés en CDI et puis surtout également aussi de nouveaux intérimaires.
C'est réconfortant pour chaque salarié d'appartenir à l'entreprise.
Ça permet d'avoir des volumes supplémentaires pour l'usine. Donc c'est une excellente nouvelle pour nous, le bassin d'emploi et également tous les fournisseurs. Depuis 20 ans, on construit un seul véhicule. Donc maintenant, il faut qu'on s'adapte pour produire deux modèles sur les mêmes lignes. Donc c'est un challenge supplémentaire. Et la prochaine étape maintenant, c'est de s'adapter pour pouvoir produire les deux modèles au niveau de qualité et satisfaire nos clients.
Des propos recueillis par Lionel Gougelot. L'usine emploiera 4500 salariés au total. C'est du jamais vu sur le site.
Mais cette dynamique, on peut l'interroger avec vous peut-être au 39-21, la dynamique sur le marché de l'hybride en particulier. Là, on parlait de Toyota, on va s'intéresser dans le journal de 7h30 avec vous tout à l'heure, Hélène, justement au marché de l'hybride en France. Est-ce que vous avez sauté le pas? On parlait du diesel il y a encore deux jours. N'hésitez pas à témoigner. 39-21, le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Un lieu convivial pour faire revivre les zones rurales, c'est l'opération SOS qui aide financièrement les repreneurs. Dans un instant, on va vous emmener dans la Sarthe où on attend avec impatience la réouverture du Café du Village.
Et si on parlait Renault Occasion ?
Un jour, Damien acheta une voiture d'occasion de plus de 4 ans. Un prix futé, quelle ne fut pas sa surprise. Contrôlée, garantie 6 mois pièces et main-d'œuvre, elle offrait même 6 mois d'assistance. Damien venait de faire une vraie bonne affaire.
Les occasions prix futés, des véhicules de 2 à 8 ans et moins de 120 000 km contrôlés, garantie 6 mois. Voir conditions de l'offre prix futée sur Renault.fr.
Et vous, quel serait votre rêve de vacances ?
Ce serait une semaine de fou rire avec les enfants.
Ouais, dans la piscine !
Et on testerait tous les sports.
Pour vous, TUI a créé les séjours en Club Marmara en tout inclus. À vous, les vacances 100%.
100% fun, les soirées à thème avec vos animateurs et le mini-club pour les enfants. Jusqu'au 31 janvier, profitez des réservés primo jusqu'à 350 euros de réduction. À saisir sur tui.fr ou en agence de voyage.
Tui, discover your smile.
Découvrez votre sourire. Conditions sur tui.fr.
Bonjour, je suis Agathe de Carglass. L'hiver, mes clients me le disent, la nuit n'en finit plus. Et au volant, on y voit moins bien. Chez Carglass, on a la solution. Pour toute intervention vitrage, on vous offre des lunettes pour conduire la nuit. En plus, elles sont sélectionnées chez les opticiens Atoll. Alors venez vite chez Carglass, c'est jusqu'au 25 janvier.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Il est 6h11. La suite du journal, Hélène Zélani, Mathieu Béliard.
Comment redonner vie aux communes rurales? Écoutez bien cette initiative. On en avait parlé il y a quelques mois sur Europe 1. Ça passe par le retour des petits commerces. L'opération 1000 cafés a été lancée en septembre dernier par le groupe SOS, le numéro 1 de l'économie sociale et solidaire en Europe.
Oui, en partenariat avec le ministère de la Cohésion des Territoires. L'idée, c'est de soutenir financièrement les repreneurs les plus solides. Une première liste de 24 petites communes vient d'être publiée. Tresson, dans la Sarthe, en fait partie. C'est 470 les habitants attendent avec impatience la réouverture de leur café-restaurant. Théo Manval est allé les rencontrer.
C'est là, entrez.
Le comptoir n'a pas bougé depuis la fermeture l'été dernier. La salle du café-restaurant non plus, avec ses 70 couverts.
On a une très belle cuisine.
Ça fait 6 mois que Chantal Buin, la maire de Tresson, se bat pour que son village retrouve ce qui était son dernier commerce.
La boulangerie est à vendre depuis 10 ans. On avait un boucher qui a fermé en juillet. Dans nos communes, ce qui est difficile, c'est la solitude. Donc c'est vital que ce café voit le jour.
Car la population vieillit ici comme dans bien des campagnes, mais de nouvelles familles s'installent aussi, le nombre d'habitants augmente, 470, l'école est toujours là. Le café ressuscité fera aussi dépôt de pain, kiosque à journaux et même point de covoiturage, le rempart à la désertification.
C'est fédérateur comme lieu.
Ah oui, un bon petit commerce qui rouvre, c'est la vie, hein. Sinon tout disparaît.
Travaillant ici à Tresson, c'est super important parce qu'on peut inviter aussi des clients.
Il en reste une toute dernière étape, l'ultime entretien des futures repreneuses demain devant le groupe SOS, qui paiera ensuite, si tout va bien, leur bail et les emploiera comme salariés gestionnaires d'ici au printemps, espère la commune.
On a hâte, vraiment.
À Tresson, Théo Manval, Europe 1.
À l'autre bout du monde, en Australie, les fumées toxiques des gigantesques incendies perturbent l'Open de tennis de Melbourne pour la 2e journée consécutive. Les matchs de qualification ont été retardés et de plus en plus de joueurs s'interrogent sur l'opportunité de maintenir le tournoi qui doit commencer lundi.
Le cinéma à présent, avec la sortie aujourd'hui de 1917, film de Sam Mendes déjà couronné de 2 Golden Globes et favori pour les prochains Oscars.
Oui, un film qui se distingue par sa forme, un unique plan séquence, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune coupe, aucun montage visible à l'écran, prouesse technique impressionnante. Mathieu Charrier.
1917 est une vraie expérience immersive, au-delà du cinéma, même si l'histoire est assez classique. Deux jeunes soldats chargés de traverser les lignes ennemies pour porter un message.
Ils vont tomber dans un guet-apens. Votre mission est de porter un message annulant l'assaut prévu demain matin. À défaut, nous perdrons 1600 hommes.
Mais c'est ce que Sam Mendes en fait de cette histoire qui est exceptionnelle. Près de 2 heures d'une course contre la mort et pour la vie, en un seul plan visible à l'écran. C'est-à-dire qu'on ne distingue pas les coutures du film, les éventuelles coupes, et que du coup on est physiquement avec ces soldats, dans l'enfer des tranchées, sous les bombes et le feu ennemi. On n'a pas le temps de respirer. Une réalisation virtuose dont Sam Mendes refuse de livrer tous les secrets.
Ce sont plusieurs très longues prises reliées les unes aux autres. Ce que je voulais, c'est surtout qu'on ait l'impression qu'il n'y ait pas de montage. Comme ça, on a la sensation d'être coincé avec les personnages. Je ne pouvais rien couper au montage. Je ne pouvais pas couper une réplique. Je ne pouvais pas modifier l'allure, le tempo d'une scène. Ça ne se passe pas comme ça dans un film traditionnel.
Sam Mendes, qui est avant tout un metteur en scène de théâtre, il a donc repris la même organisation sur son tournage, c'est-à-dire des dizaines de répétitions avant de lancer la caméra. Il a aussi choisi 2 acteurs pas encore très connus pour incarner les rôles phares et que le spectateur puisse plus facilement se glisser dans la peau de ses soldats.
1917 de Sam Mendes, sorti aujourd'hui, et c'est un film Europe 1.
Merci Hélène Zélani, c'était le journal de 6h, un nouveau journal à 6h30 tout à l'heure avec Jérôme Lacroix. Bon réveil à tous.